Nzamba.
Nzambira sa Milan.
Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique, nous sommes dimanche 5 mars 2023. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongé. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée sur le chapitre des droits d'homme et de justice. Le tribunal de grande instance de Nahangwa a confirmé la détention de 5 défenseurs des droits humains. Ils avaient été entendus en itinérance dans les enceintes de la prison centrale de Mimba lundi dernier par la chambre de conseil de ce tribunal. Sonia Ndikumasabo, elle est la présidente de l'association Femmes Juristes du Burundi. Marie Emerusabe, coordinatrice de cette association. Audace Havyarimana, il est le représentant légal de l'Association pour la promotion des droits de l'homme. Sylvain Inamahoro, elle est directrice exécutive de cette association. Ils ont été arrêtés le 14 février à l'aéroport international de Bujumbura, alors qu'ils voulaient se rendre à Kampala dans une réunion avec leurs partenaires. Le coordinateur du projet foncier au sein de la PDH, Prosper Runyange, a été également arrêté à cette même date et conduit lui aussi dans les cachots du service national des renseignements pour rejoindre les 4 défenseurs. Les défenseurs des droits humains ne cessent de plaider pour que leurs collègues soient libérés. Toujours au chapitre des droits de l'homme et justice, il a totalisé 6 mois de détention arbitraire. La journaliste Floriane Ilangabiye a été condamnée d'atteinte à l'intégrité territoriale du Burundi. Son procès viole littéralement les droits à la liberté d'expression au Burundi, a déclaré Human Rights Watch dans son récent rapport sur cet emprisonnement. On fait le point avec Francine Kanyang.
Condamné par le tribunal de grande instance de Mukasa à 10 ans de prison et à une amende d'un million de francs burundais, la journaliste Floriane Ilangabiye purge sa peine à la prison centrale de Muyinga. Ses avocats ont interjeté appel le 23 janvier courant. Lors du procès de Floriane Ilangabiye le 16 décembre 2022, le parquet a fondé ses accusations sur son travail de chroniqueuse et d'animatrice sur la radio Igitaniro, un média en ligne qui diffuse des contenus critiques ainsi que des débats sur la politique et la culture burundaise. Floriane Ilangabiye a été placée en détention le 30 août 2022 après avoir été interceptée par des agents du service de renseignement alors qu'elle se rendait aux funérailles d'un parent à Matana dans le sud du pays. Elle a été détenue sans qu'aucun chef d'accusation ne soit retenu contre elle jusqu'au 27 octobre en violation du code de procédure pénale burundais. Dans l'entretemps, la journaliste a été transférée de la prison centrale de Mimba à la prison de Muyinga où elle a continué de subir des menaces et des actes de harcèlement de la part des agents des services de l'État. C'est le cas du chef du bureau des renseignements à Muyinga qui a dit qu'il avait tous les droits sur elle, même celui de toucher des parties génitales. C'était lors d'une fouille dans la prison en novembre dernier. Au mois de janvier dernier, un de ses co-détenus, un identifié, l'a agressé publiquement avec des menaces de viol, lui a infligé en toute impunité. Des sources simples de cette maison de détention affirment qu'aujourd'hui, la journaliste Floriane Ilangabiye fait toujours objet de menaces de la part des personnes qui pourraient lui faire du mal, voire attenter à sa vie. Certains membres de l'administration de cet établissement seraient aussi impliqués dans ce projet funeste.
Merci à toi, Francine Kanyang. Au chapitre de justice et bonne gouvernance, les procès en rapport avec la corruption seront désormais traités au niveau des tribunaux de grande instance, à l'exception de la mairie de Bujumbura. Cette loi a été adoptée ce lundi dernier par l'Assemblée nationale. Les précisions avec Eddie-Claude Nininazo.
Cette loi organique révisée qui a été analysée ce lundi autorise les tribunaux de grande instance de traiter des dossiers en rapport avec la corruption au niveau de la chambre anticorruption logée au niveau des tribunaux de grande instance situés dans le pays, à l'exception de la mairie de Bujumbura. Le président de l'Assemblée nationale, Gélase Ndabirabe, explique cette exception de la mairie par le fait qu'il y a la cour anticorruption. Il ajoute aussi qu'il y a beaucoup de tribunaux de grande instance à Bujumbura. Selon toujours Gérard Ndabirabe, une fois que cette chambre serait ouverte au niveau des tribunaux de grande instance à la mairie de Bujumbura, il y a un grand risque de diluer les compétences de la cour.
Au niveau des provinces, c'est la question de décentralisation. C'est pour éviter des va-et-vient des magistrats de la cour anticorruption. Le souci de créer des chambres anticorruption, c'est en quelque sorte approcher des services à la population. mais ils ont décidé de ne pas créer cette chambre au niveau des tribunaux de grande instance en mairie de Bujumbura. Je voudrais vous dire qu'en mairie de Bujumbura, il y a beaucoup de tribunaux de grande instance. On n'a pas créé cette chambre en mairie de Bujumbura parce qu'il y a la cour anticorruption. En mairie, il y a le tribunal du travail. En mairie, il y a le tribunal du commerce. Et en mairie, il y a la cour administrative. Le problème qui se pose est qu'en mairie, il y a beaucoup de tribunaux de grande instance, en plus de la cour anticorruption. Si alors ces chambres étaient créées au niveau des tribunaux de grande instance, il y a risque d'obstruction sur le travail de la cour anticorruption. Vous entendez? Ça serait une façon d'ouvrir une brèche. Ceux qui ne veulent pas être poursuivis iront au niveau des tribunaux de grande instance pour faire bloquer leur dossier. Et ça sera comme de simples tribunaux. Les Burundais, vous ne les connaissez pas. Ils vont faire des blocages dès la base. Ils vont diluer le travail de la cour anticorruption à partir de ces chambres se trouvant au niveau des tribunaux de grande instance.
Le député Sylvestre Ndikumana lui estime que s'il y a une harmonisation, cela devrait se faire dans tout le pays. Sinon, il y a risque de voter des lois anticonstitutionnelles. Il trouve que le procès devrait commencer au niveau de cette chambre anticorruption pour continuer à l'appel à la cour anticorruption.
Honorable, des fois nous votons des lois qui sont anticonstitutionnelles. Si l'organisation et la compétence des cours et tribunaux ne figurent pas dans ce code que nous sommes en train d'analyser, ça ne marche pas. Il est incompréhensif si nous harmonisons à l'intérieur du pays que ça ne soit pas de même ici en mairie de Bujumbura, pour que ces procès commencent au niveau des tribunaux de grande instance pour continuer au niveau de la cour anticorruption. Nous avons même discuté sur cela. Est-ce qu'au niveau de la cour anticorruption, il y a deux degrés? Le premier degré est l'appel? Non. Donc, si les procès commencent au niveau de la cour anticorruption, l'appel sera au niveau de la chambre judiciaire de la cour suprême. Ce qui sera le contraire à la volonté d'approcher la justice au justiciable. C'est ainsi que nous nous sommes dit d'harmoniser pour que tous les procès en rapport avec la lutte contre la corruption commencent au niveau de tribunaux de grande instance et se poursuivent au niveau de la cour anticorruption. Nous n'avons pas voulu diluer la compétence de la cour anticorruption. Nous avons voulu que tout soit uniforme au niveau de tout le pays. Dire qu'il y a le tribunal du commerce et le tribunal du travail ici à Bujumbura, ça n'a rien à voir. Parce que le tribunal du commerce et le tribunal du travail se trouvent au même niveau que le tribunal de grande instance. La cour se trouve au-dessus. Et puis, dire que si les procès commencent au niveau des tribunaux de grande instance, les compétences de la cour seront diluées, ce n'est pas du tout vrai. Les jugements qui seront rendus à l'intérieur du pays ne sont-ils pas des procès? Est-ce que la corruption se fait-elle sentir uniquement au niveau de la mairie? Est-ce que le gros des jugements rendus par la cour anticorruption sont-ils de Bujumbura?
Après plusieurs échanges, cette loi organique a été amendée.
Merci à toi, Eddie Claude Ninina Hazwe. Réagissant à ce sujet, Fosseni Kumana, président de l'association locale PARSEM, Parole et Action pour le changement des mentalités, estime que ce transfert des compétences de la Cour anticorruption vers les tribunaux ordinaires est synonyme de réduire l'efficacité des dispositifs légaux de lutte contre la corruption. Fosseni Kumana conseille plutôt aux décideurs politiques de renforcer les mécanismes juridiques au lieu de les supprimer. Je vous propose de l'écouter.
Normalement, ces institutions spécialisées, ces juridictions spécialisées avaient été mises sur le pied pour renforcer donc les compétences de ces institutions pour frapper fort contre les corrupteurs. C'était vraiment dans le cadre de la croisade qui avait été inaugurée pour renforcer la lutte contre la corruption après avoir constaté que l'état de la corruption au Burundi avait pris une allure de plus en plus inquiétante après l'enquête qui avait été organisée en 2008. Même aujourd'hui, vous voyez que le président a renouvelé cette lutte. Mais on ne comprend pas comment le président peut lutter contre la corruption sans s'appuyer sur des institutions efficaces, fortes, surtout les institutions judiciaires. Et c'est pour cela qu'on continue à constater une impunité presque consacrée des auteurs de la corruption. C'est vraiment inimaginable. Vous voyez que maintenant, il y a la paralysie, on a la paralysie de tout le système Le cadre institutionnel et légal de toute la corruption est paralysé. Et le président se lance dans cette croisade à travers une simple sensibilisation, une moralisation. Normalement, la moralisation, la sensibilisation, c'est la société civile. La moralisation, la sensibilisation, la dénonciation, c'est la société civile. C'est l'horreur de la société civile. L'indépendance du système judiciaire, parce que ces institutions juridiques spécialisées doivent avoir un personnel compétent. Un personnel formé, compétent, avec une expertise avérée. Parce que les infractions, donc, connexes à la corruption, les infractions de la corruption exigent vraiment un sens poussé, une sagacité, exigent vraiment une analyse méticuleuse, des fois des enquêtes, qui exigent vraiment des enquêtes approfondies, nécessitant des compétences dans plusieurs domaines.
Poursuivons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine sur le chapitre de l'éducation. Au moins 700 élèves et écoliers ont abandonné l'école d'Ilan au premier trimestre de l'année scolaire en cours en commune Gasogwe de la province Muyinga. Les causes souvent avancées sont la pauvreté des ménages, les maladies et l'ignorance des parents. Les détails avec Karine Doussal.
Selon des sources proches de la direction communale de l'enseignement à Gasogwe, ces enfants fréquentaient les classes du pré-fondamental et post-fondamental. Si on estime qu'une classe compte 50 élèves ou écoliers, on aura au total 14 salles de classe qui ont fermé les portes durant cette période. Au moins 700 élèves et écoliers ont abandonné l'école durant le premier trimestre de l'année scolaire en cours dans cette commune de Gasogwe. Ce qui est étonnant, c'est que même les écoles à cantine scolaire comptabilisent aussi ce genre de départ, regrette la même source. La commune Gasogwe est considérée comme une entité qui vient souvent parmi les premiers dans l'abandon scolaire. Les causes de ces abandons, souvent avancées, sont la pauvreté des ménages, les maladies et l'ignorance des parents, selon les mêmes sources. À la fin de l'année scolaire écoulée, on comptait plus de 18 000 cas d'abandon en province scolaire de Muyinga.
Merci à toi Karine Doussabé. Le langage des plus hautes autorités qui minimise l'importance des études n'encourage pas les jeunes à aimer les études. Ce même langage est la preuve que le pouvoir ne peut pas engager des moyens nécessaires pour l'épanouissement du secteur de l'éducation. Ce sont les propos de Charles Nditije qui suit de près les questions du secteur de l'éducation au Burundi. Selon lui, l'enfant a besoin de beaucoup de choses pour monter son engouement aux études, à commencer par ce que lui offrent ses parents à la maison, mais aussi l'accès au matériel scolaire adéquat et des conditions d'études viables. On écoute Charles Nditije.
D'abord, il faut que l'élève en question soit motivé parce qu'il voit l'utilité, l'intérêt d'aller et de poursuivre ses études, sa scolarité. Parce que les gens les mieux formés trouvent du travail. Deuxièmement, il faut que ses parents l'encouragent à étudier parce qu'ils perçoivent la nécessité, l'importance d'aller à l'école pour l'avenir de leur enfant. Il faut également que ses parents aient amené des conditions qui leur permettent de répondre aux besoins premiers de l'élève en question de leurs enfants en général. Il faut aussi qu'ils puissent avoir le matériel scolaire et le Minerva qui sont exigés par les autorités scolaires. Il faut ensuite que les enseignants soient également motivés et compétents pour qu'ils puissent exercer correctement leur métier, ce qui motive également les élèves. Il faut également que les classes soient équipées et minimalement au niveau des livres, au niveau des bancs pupitres. Il faut que les effectifs soient raisonnables, ne soient pas pléthoriques, ce qui permet aux enseignants de mieux encadrer leurs élèves. Et il faut aussi et surtout que le gouvernement fasse de l'éducation nationale une priorité, notamment en mettant en place une politique volontariste qui met le paquet sur l'éducation avec un budget substantiel, avec une politique claire. En matière d'éducation, il faut qu'il multiplie également les écoles à finalité enseignante. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on observe un peu partout. Si je commence par le gouvernement, les plus hautes autorités du pays sont les premiers à dénigrer l'éducation. Par conséquent, à démotiver les élèves depuis le primaire jusqu'au supérieur. Et le président de la République dit que le Burundi dispose de beaucoup de lauréats qui ont des diplômes de doctorat, de PhD, de master, mais qui ne servent à rien. Le secrétaire général du CNDD, FDD, met sur la même longueur d'onde et de dire que le français, les mathématiques ne servent à rien puisqu'on ne peut pas piéger les sauterelles. Comprenez qu'avec un tel discours, il n'y a pas moyen de motiver les enfants, les élèves à poursuivre leur cursus. C'est plutôt le contraire que l'on observe.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un excellent dimanche chez vous et à la prochaine.
Zamba.
Zambi la Samirani.